Bonjour à tous, ici Marie, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de mon podcast Heure Miroir. Cette semaine, j'avais envie de m'attaquer à un gros morceau, la procrastination. Je suis sûre que si vous écoutez cet épisode, vous avez déjà été victime de procrastination et peut-être que vous êtes même en train de le faire justement en écoutant cet épisode de podcast au lieu de faire quelque chose qui est sur votre to-do list ou que vous repoussez depuis des semaines, voire des mois. J'avais envie de vous parler de la procrastination parce qu'il se trouve que la semaine qui vient de s'écouler a été plus ou moins calme pour moi. C'est enfin une semaine où j'ai pu me poser à la maison sans avoir de tâches particulièrement difficiles à faire, sans avoir de très gros projets ou de très gros trucs à devoir gérer et surtout sans avoir de déplacement. Bon, autant vous dire que j'étais ravie de pouvoir rester enfin un petit peu chez moi, mais ça m'a mis face à toutes les petites choses que je repousse depuis des semaines et des mois parce que je n'ai pas le temps de les faire. Toutes ces choses que j'avais enfin le temps de faire, eh bien, je n'avais pas l'envie et je me disais que j'avais largement le temps puisque j'avais une semaine entière devant moi dédiée uniquement à l'accomplissement de ces petites tâches que je ne fais que repousser. Sauf que le dimanche est vite arrivé et avec la réalisation que dans toutes les tâches que je devais faire depuis le début de la semaine, je n'en avais fait que quelques-unes. Tout ça à cause de la procrastination dont je suis l'experte. Hein, je tiens à le préciser avant d'aller plus loin dans cet épisode. Bref, si vous êtes victime de procrastination et que vous avez envie de vous sortir de ce cercle vicieux, je vais tenter de vous donner quelques conseils aujourd'hui que je dois d'ailleurs beaucoup plus m'appliquer à moi-même. On va découvrir également d'où vient la procrastination, pourquoi est-ce que certaines personnes en sont victimes et pas d'autres. Bref, prenez note. Le verbe procrastiner vient du mot latin procrastinare qui veut dire remettre au lendemain. On peut se dire que la procrastination c'est déjà quelque chose qui existe depuis assez longtemps, ce qui est plutôt rassurant de se dire que c'est pas quelque chose qui est de l'ordre du mal du siècle et que ça vient seulement d'arriver. Absolument pas, ça fait un petit temps que la procrastination existe. Il y a plusieurs choses qui font que l'on procrastine. Quelques études ont été menées et notamment par l'INSERM, qui est l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, qui nous dit que la procrastination peut s'expliquer par la tendance de notre cerveau à décompter plus vite les coûts que les récompenses. En gros, c'est assez simple à comprendre. C'est-à-dire que notre cerveau, qui fonctionne globalement avec les hormones du plaisir et de la récompense, on la connaît, hein, cette fameuse dopamine maintenant, l'hormone du bonheur. Et ben en gros, le cerveau, il estime que si l'effort n'est pas à la hauteur de la récompense et si l'effort va prendre beaucoup de temps pour une récompense qui finalement ne sera pas donnée tout de suite, alors ça vaut pas nécessairement la peine. Ils ont même fait une étude avec de l'imagerie, donc dans des IRM, sur 51 participants, et ça a révélé qu'en fait, il y avait une activation, quand on prend une décision, d'une région cérébrale qui s'appelle le cortex singulaire antérieur. Et en fait, cette région-là du cerveau, elle a pour rôle d'effectuer un calcul coût-bénéfice en intégrant les efforts et les récompenses associées à chaque option. Donc en fait, plus l'effort paraît difficile et coûteux en termes de sacrifice, moins la récompense paraît chouette. Donc déjà, la procrastination, elle peut s'expliquer chimiquement dans ce qui se passe dans notre cerveau, rien que par l'action du coût-bénéfice. Évidemment, le cerveau n'est pas la seule cause responsable de notre procrastination. La deuxième cause la plus responsable de ça, c'est quelque chose dont on a déjà parlé dans les podcasts, c'est le manque de confiance en soi, induisant la peur de l'échec. Le fait de pas forcément se sentir capable d'accomplir toutes les tâches qu'on doit faire. Quand on a une to-do list à rallonge et qu'on la voit encore plus se rallonger, on a la sensation d'être un peu nul face à tout ce qui nous reste à faire et on a cette peur de se dire « je vais juste pas y arriver en fait, j'ai pas les capacités physiques, émotionnelles, mentales, je suis fatiguée aujourd'hui, je me sens pas bien, je me sens pas en fait suffisamment en confiance avec moi-même pour me dire que je vais réussir à venir à bout de ma to-do list et donc de faire toutes ces tâches qui m'incombent et que je dois absolument faire. C'est comme si on se sentait pas capable de relever ce petit défi de la vie qui était juste d'accomplir des tâches vraiment très très simples. Je vous renvoie évidemment à l'épisode qui parle de la peur de l'échec, je pense que ça pourra vous être bénéfique. Je vous parle très souvent de cet épisode, je pense que vous avez remarqué, mais parce que pour moi c'est vraiment la base de beaucoup de choses, la peur de l'échec, et ça peut réellement vous aider à comprendre en fait les mécanismes qui se mettent en place dans votre cerveau et à régler énormément de problèmes du quotidien qui sont souvent liés à cette peur de base. La peur en fait de pas réussir à faire toutes ces tâches-là peut être une cause à la procrastination. La troisième cause que je vais évoquer, je pense que beaucoup de personnes vont comprendre parce que moi je sais que je suis souvent dans ce genre de situation et c'est selon moi la cause qui crée ma procrastination au quotidien. C'est un excès de perfectionnisme. J'ai toujours la sensation que je ne peux pas faire les choses si je ne les fais pas à 100%, si je ne les fais pas parfaitement, si elles ne sont pas exactement comme je l'avais imaginé, comme je l'avais envisagé, comme je l'avais prévu. Sauf que, bah, comme d'habitude, la vie fait que on ne peut pas toujours faire les choses à la perfection comme on se les était imaginées. Et comme ce n'est pas toujours possible, et ben moi je sais que j'ai fortement tendance à repousser les tâches que je dois faire encore et encore et encore et encore parce que je me dis que j'ai pas toujours la disponibilité mentale, ni même émotionnelle, ni même psychique, physique, de faire les choses aussi bien que j'aimerais qu'elles soient faites. Et comme j'ai pas cette disponibilité-là, et ben je préfère sacrifier des projets, sacrifier des choses à faire, plutôt que de les faire à 10, 15, 20% de mes capacités. Ça, ça se produit généralement plus souvent sur des tâches compliquées, hein, sur des tâches type gros projet, type vraiment grosses choses à mettre en place, pas sur des petites tâches du quotidien du style vider le lave-vaisselle, ok ? C'est vraiment plus sur des trucs genre faire un PowerPoint, faire un tableau Pinterest d'inspiration, mettre en place un pop-up store, faire des calls pour le boulot qui me demande beaucoup d'énergie parce que voilà, moi je suis assez sensible et ce genre de trucs ça peut vite me stresser. Bref, tout ça, j'ai vraiment tendance à les repousser encore et encore et encore et encore. Et évidemment que c'est vraiment pas le genre de choses qu'il faut faire, mais on en parlera après. Et moi, je fais ça surtout sur des très grosses tâches parce que j'ai toujours l'impression que j'ai pas la disponibilité de le faire à 100%. Et ça me frustre et donc je préfère ne pas les faire, sauf que tout ça s'accumule. Quatrième raison qui nous pousse à procrastiner, le stress. Ah, le stress. Un jour, je vous ferai un épisode entier hein, sur le stress quand j'aurai moi-même réglé mes problèmes parce qu'évidemment, c'est trop facile de faire des épisodes sur des choses que même moi, j'ai pas réglées. Je sais que vous aimez bien quand je vous parle de sujets que moi-même, j'ai pas réglés parce que vous avez la sensation de vous sentir un peu moins seul, ce que je peux comprendre. Mais vraiment, le stress, c'est 80% de ma vie, hein, ça représente 80% de mon quotidien. Mais le stress peut réellement vous faire procrastiner. Ce qui est d'ailleurs très drôle parce qu'au final, le fait de procrastiner augmente aussi le taux de stress puisque plus tu vois ta to-do list s'allonger, plus t'es stressé. Sauf que réellement, le stress peut clairement vous empêcher de faire des tâches parce que vous avez une surcharge mentale, parce que vous avez tellement de choses à faire que vous savez plus où donner de la tête et que vous repoussez sans cesse les petites tâches du quotidien parce que vous vous dites « Ouais, non mais là, c'est bon, je suis trop stressée aujourd'hui, j'ai déjà trop de choses sur le feu, je ne peux pas encore rajouter des choses, donc c'est pas grave, je le ferai la semaine prochaine, je le ferai demain, je le ferai dans 3 jours, bref, et au final, on le sait très bien, on sait comment ça se termine, vous ne les faites jamais. » Cinquième cause de la procrastination, le manque de maîtrise de soi-même. Là, je vais plutôt le traduire par un manque profond de volonté. Voilà. Et là, il faut pas se sentir vexé quand je dis ça, faut pas le prendre personnellement. Mais c'est la vérité. Il y a des gens qui ont un manque de motivation, un manque de volonté, un vrai manque d'envie de manière générale. En gros, on va dire les termes, c'est des gens qui se mettent pas forcément des coups de pied au cul. Voilà, on va dire les choses comme elles sont, plus communément appelées flemme aussi. Et du coup, bah évidemment, c'est un des facteurs de la procrastination. Puisque si tu te donnes pas les moyens, si tu te bouges pas les fesses, et si tu te dis « Oh, pff, c'est bon, j'ai la flemme, oh, pff, c'est bon, j'ai la flemme », bah il y a pas grand chose qui se met en place, il n'y a pas beaucoup de tâches qui sont faites et puis ça s'accumule, évidemment. Vous allez voir la liste des raisons de la procrastination, c'est vraiment colossal. On a ensuite un sixième facteur qui est sous-estimé et qui pour autant est bel et bien réel, c'est la dépression ainsi que tous les troubles mentaux et psychiques qui peuvent nous arriver dans la vie. La dépression, évidemment, c'est un état plutôt léthargique dans lequel on a vraiment aucune envie de faire quoi que ce soit. La moindre chose devient un effort colossal. Prendre sa douche, se lever de son lit, c'est déjà fatigant et ça a aussi des répercussions sur le corps physique. Donc la dépression entraîne inévitablement de la procrastination. On a vraiment un sentiment d'impuissance, clairement, un manque d'énergie et puis des symptômes qui sont bien plus profonds que simplement le fait de ne pas réussir à accomplir des tâches, malheureusement. Mais il y a aussi d'autres pathologies mentales qui peuvent nous empêcher d'accomplir des tâches assez simples et qui sont par exemple des troubles un petit peu plus poussés, type TDAH ou le TDA d'ailleurs, donc le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Évidemment, quand on a ce genre de trouble, c'est très compliqué de rester focus sur une seule et même tâche et on a plutôt tendance à s'éparpiller. J'ai des TDAH dans ma vie et je peux vous dire que c'est particulier de vivre avec ce genre de personnes. Et si vous êtes TDA ou TDAH, je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Mais votre attention n'est tellement pas focus sur une tâche que, par exemple, tu es en train de vider le lave-vaisselle. Tu vois que ta machine à café a besoin d'un détartrage. Donc, en fait, tu arrêtes ce que tu es en train de faire avec le lave-vaisselle pour commencer à détartrer ta machine à café. Et pendant que ça, c'est en train d'être fait, tu reçois un texto qui te dit que tu as un virement à faire pour la banque. Bref, tu vas faire ton virement pour la banque, sauf qu'en attendant, ta machine à café déborde. Ton lave-vaisselle est toujours ouvert. Et puis, à ce moment-là, ça sonne à la porte. Un colis arrive, t'ouvres ton colis, ça te donne envie de faire autre chose. Bref, je vous passe le détail, mais ça peut vite être le bordel et c'est difficile en fait de se focus sur une seule et même tâche. Donc, on a du mal tout simplement à clôturer ces to-do list. Ça peut être évidemment un facteur assez important de la procrastination malgré soi au final. Parce que bah, là, on est complètement happé par autre chose. Mais ça engendre quand même de la procrastination. Bref, des raisons pour procrastiner, il y en a plein. Peut-être que dans tout ce que je viens de vous dire, vous vous êtes reconnu dans une de ces raisons ou peut-être dans plusieurs. Peut-être que c'est 10% dans l'excès de perfectionnisme. Peut-être que c'est 10% dans le stress. Peut-être que c'est 30% dans le manque de confiance en soi. Comme je le dis à chaque fois, dans ce genre de problématiques de la vie du quotidien, le plus important c'est de réussir à déterminer les causes pour pouvoir guérir un petit peu les causes afin de régler ce plus gros problème majeur qu'est la procrastination. Et ça, ça vaut pour aujourd'hui, mais ça vaut pour tous les sujets de la vie. Il faut toujours trouver la cause, quand c'est possible, des maux MAUX dont on souffre. Maintenant, j'aimerais vous parler des conséquences de la procrastination. Qu'est-ce que la procrastination nous fait à nous en tant qu'être humain ? Quand on a des to-do list à rallonge ou quand on sait en fait qu'on a une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête avec des trucs qu'on doit faire et qu'en fait on les met dans un coin de notre tête et puis on les met de côté comme ça, on les oublie. Vous voyez, je sais très bien que vous voyez de quoi je veux parler. Vous savez, ce truc que t'as à faire depuis des semaines, tu sais que tu dois le faire et ça va bientôt être trop tard pour que tu le fasses. Mais non, t'y arrives pas. Il y a cette espèce de barrière qui t'empêche de le faire. Mais ça te reste dans un coin de la tête. C'est pas comme si tu l'oubliais à 100%. Évidemment que non, ce serait trop facile. Non, ça te reste dans un coin de ta tête, mais tu ne sais pas pour quelle raison tu ne la fais pas. Moi, par exemple, là, je vous parle d'un truc, voilà, il faut absolument que je le fasse aujourd'hui, c'est sur ma to-do list depuis des semaines, je dois renvoyer un colis. Voilà, j'ai acheter des trucs, ça ne me va pas, je dois les renvoyer. La date pour les renvoyer, c'est bientôt trop tard. Hein. Et si je le fais pas, je vais perdre 300 balles. Donc il faut que je le fasse. Le colis est rempli, je l'ai même fermé. Mais la simple idée d'aller le faire, c'est overwhelming pour moi. J'y arrive pas. Je sais pas pourquoi, là, c'est trop. C'est déjà trop pour moi. Non mais c'est débile, je sais c'est débile. Sauf que bah, ça me reste dans un coin de ma tête. Je passe devant ce colis tous les jours. Tous les jours, je me dis, il faut que je le fasse. C'est un stress supplémentaire. Et je le fais pas. C'est con quand même. Donc ça me crée du stress. J'y pense toute la journée, donc je ne suis pas tranquille d'esprit. J'ai l'impression que j'ai toujours un truc à faire, alors que des fois j'ai plus rien à faire sauf ça. La procrastination, ça peut aussi vous causer des problèmes professionnels, évidemment, parce que s'il y a des tâches que vous ne remplissez pas pour votre boulot, bah forcément, à la fin, ça va commencer à faire chier votre patron. Des problèmes financiers, puisque bah peut-être que c'est des tâches qui vont vous faire perdre de l'argent, comme par exemple, moi, renvoyer mon colis, si je le fais pas à temps, je vais perdre 300 balles, j'ai pas envie. Mais aussi, ça peut créer des disputes au sein d'une famille, au sein d'amis, au sein d'un couple, parce que quand t'es avec une personne qui fait que repousser au lendemain le fait de plier ses affaires ou de défaire sa valise, à un moment donné, ça va te taper sur le système. C'est énervant, en fait, d'être avec quelqu'un qui, toute la journée, est en train de repousser au lendemain ce qu'il devrait faire aujourd'hui. C'est pénible, parce que pour peu que la personne avec qui vous êtes en couple, par exemple, n'est pas du tout comme vous et a plutôt tendance à faire les choses dès qu'elles doivent être faites, c'est chiant, c'est pénible. Donc ça peut créer des disputes, ça peut vous énerver, tout simplement. De manière générale, quand on fait pas les choses qu'on doit faire, on a une faible estime de soi. On se sent pas bien, on se dit qu'on est un peu nul, on est un peu naze. Pourquoi est-ce qu'on l'a pas fait plus tôt ? On se sent pas bien et en fait on se sent plus capable de faire les choses. Ça renforce vraiment ce sentiment d'incapacité à réaliser des tâches et donc inévitablement ça nous fait nous sentir comme des merdes. Voilà, on va dire les choses comme elles sont, c'est la vérité. Donc la procrastination, clairement, ça a des effets néfastes mais sur plein de sujets dans nos vies. C'est vraiment quelque chose de nul. C'est nul de procrastiner, on le sait tous. Mais maintenant, comment faire pour arrêter de procrastiner ? Donc là, on connaît probablement la cause, on connaît les conséquences, mais comment faire pour arrêter de procrastiner ou à minima diminuer cette procrastination ? Parce que moi, je vous le dis, hein, je n'y arriverai jamais. Je sais très bien que je ne peux pas complètement arrêter de procrastiner. Ça fait partie de qui je suis. C'est comme ça, c'est un trait de ma personnalité et je l'ai accepté, je vis avec, je l'accepte. Mais par contre, au fil des années, j'ai réussi drastiquement à diminuer ma procrastination. J'arrive beaucoup plus maintenant à faire des tâches que je n'arrivais pas à faire avant, à moins qu'on me mette un couteau sous la gorge. Et surtout, il y avait des domaines de ma vie dans lesquels j'avais vraiment, vraiment du mal à ne pas procrastiner. Comme par exemple, retrouver des factures pour faire de la comptabilité, tout ce qui est de l'ordre de l'administration, répondre à des mails. Tout ça, pour moi, il y avait vraiment un moment de ma vie, c'était au-dessus de mes forces, je vous jure. Payer une facture, c'était pour moi de l'ordre de l'impossible. Si j'avais une amende, je vous jure que je la payais pas tout de suite. Ça prenait genre 6 mois, je vous promets, c'est vrai. Et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je fais avec beaucoup plus de de facilité. Alors, je dirais pas que c'est encore quelque chose de tout à fait naturel chez moi, mais par contre, c'est beaucoup plus facile. Ça me semble plus accessible et moins difficile, clairement. Parce que j'ai réussi à mettre en place des habitudes dans ma vie qui font que j'ai rendu ces tâches plus ludiques. Et on va en parler tout de suite. Quelques techniques pour diminuer sa procrastination ou peut-être complètement arrêter. Je vais d'abord commencer par vous parler des techniques qui ont fonctionné sur moi. Et ensuite, je vous parlerai d'autres techniques qui existent, mais qui n'ont juste pas marché. Faut savoir que j'ai lu quand même plusieurs livres à propos de la procrastination, parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Je me suis toujours demandé pourquoi est-ce qu'on procrastinait. Donc, j'ai beaucoup lu là-dessus. J'ai lu beaucoup de livres de développement personnel. Et il y en a plusieurs que d'ailleurs je peux vous conseiller. Donc moi, il y en a un que j'ai beaucoup aimé, c'est La règle des 5 secondes de Mel Robbins, d'ailleurs qui a un super podcast que j'adore. Je vous fais un rapide résumé du livre, mais c'est une technique qui est vraiment pas mal et que moi, j'ai trouvé assez efficace sur moi, donc je peux directement vous en parler tout de suite. C'est donc La règle des 5 secondes qui est vraiment hyper bien faite, parce que 5 secondes, c'est le temps précis qu'on a pour contrer les manipulations de notre cerveau qui pourrait nous dire « Ah bah non, on le fera demain, ah bah non, on le fera plus tard ». Donc en gros, La règle des 5 secondes, elle veut que si vous devez passer à l'action, il faut le faire en 5 secondes. Donc vous faites un décompte de 5, 4, 3, 2, 1, et au bout du 1, ça y est, hop, vous vous levez de votre chaise et vous faites l'action. Et ça fonctionne vraiment pas mal, surtout sur les tâches vraiment qu'on n'a pas envie de faire, mais des petits trucs du quotidien, parce que c'est à partir de ces 5 secondes que votre cerveau va commencer à dire « Ouais, mais en fait, j'ai la flemme !» Non, 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 non. Donc ça, c'est vraiment pas mal, et le livre, je l'ai vraiment bien aimé. Et un autre qui est très 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 connu sur le domaine de la procrastination, c'est « Avaler le crapaud » de Brian Tracy. Et alors là, vraiment, c'est un guide de base sur 21 astuces pour arrêter de procrastiner. Il est vraiment bien fait et je vous invite à le lire également si vous avez envie d'approfondir un petit peu plus sur ce domaine-là, au-delà du podcast que je suis en train de vous faire, qui est vraiment pour moi simplement une introduction à la procrastination, parce que je n'estime pas du tout être évidemment une professionnelle dans ce milieu-là. Je vous invite justement à lire des ouvrages par des gens qui ont vraiment étudié la question, et celui-là est vraiment cool également. Bref, revenons à des petites techniques qui ont fonctionné sur moi et que je voulais vous partager. Donc je viens de vous partager l'astuce des 5 secondes de Mel Robbins que je trouve vraiment hyper efficace. Et la deuxième astuce qui chez moi fonctionne bien, mais je sais qu'elle fonctionne pas chez tout le monde, c'est de faire des to-do lists. Je sais qu'on a beaucoup entendu parler des to-do lists, on a fortement tendance aussi à les décrier parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ça sert à rien de faire des to-do list à rallonge que tu n'es pas capable d'accomplir et que ça peut avoir ce côté un petit peu culpabilisant de réaliser qu'à la fin de la journée, tu n'as pas coché toutes les cases de ta to-do. Il y a aussi des gens qui disent « Ouais, enfin bon, faire une to-do pour juste écrire se brosser les dents, ça sert à rien ». Or, il faut pas oublier qu'il y a quand même des personnes pour qui, justement, en fonction de leur pathologie, se brosser les dents, se laver les cheveux, c'est déjà quelque chose de compliqué. Donc, il ne faut pas dénigrer les to-do list de chacun. Je vois ça des fois sur les réseaux sociaux, des gens qui disent « Ouais, c'est bon, les influenceurs avec vos to-do list à 2 balles, genre aller chercher un colis, et ci et ça, c'est pas très difficile ». Vous ne connaissez pas la vie des gens, vous ne connaissez pas l'état et la santé mentale des gens que vous voyez sur les réseaux sociaux. Donc peut-être que pour vous, c'est très simple d'aller chercher un colis, peut-être que pour d'autres, c'est plus compliqué et ça nécessite d'être noté. Mais je trouve néanmoins, avec beaucoup de recul et d'expérience concernant les to-do list, que c'est vraiment une solution extrêmement efficace pour se donner la motivation et la sensation de tâches accomplies et d'avoir envie en fait de faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire de prime abord. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on note sur une to-do list, donc sur une liste de choses à faire, les tâches que l'on doit faire dans la journée ou dans la semaine par exemple, et qu'on les coche, pour moi ça envoie un message positif au cerveau et ça envoie justement cette récompense et cette petite dose de dopamine qui te fait te sentir bien. Ça te fait te dire « Ok, cool, j'ai accompli une tâche dans ma journée, ça me fait plaisir, je me sens en confiance, je suis capable, je peux encore en faire une deuxième ». Parce que votre cerveau, il est content. Vous lui envoyez un petit shot de dopamine, il est heureux. Il se dit « Tain, mais génial, en fait, trop bien, j'ai réussi à accomplir un truc aujourd'hui. » Et ça va lui donner la motivation et l'envie d'en faire d'autres. Ça vous permet aussi de prendre du recul sur toutes les choses que vous devez faire. Peut-être des fois les coucher sur papier, ça vous permet en fait de prendre un peu de hauteur et de réaliser que en fait, vous n'avez pas tant de choses que ça à faire et que c'est totalement réalisable, ou au contraire de réaliser qu'il y a beaucoup beaucoup de trucs à faire et à ce moment-là, il faut les prioriser. La priorisation des tâches, ça c'est encore un autre sujet et elle est propre à chacun surtout, donc là je pourrais pas vous donner de conseils là-dessus. Par contre c'est très important de réaliser qu'il faut prioriser certaines tâches. Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui a une deadline? Qu'est-ce qui doit être fait en premier? Par exemple payer une facture c'est plus important que faire une lessive, entre guillemets. Donc vraiment pour moi les to-do list c'est essentiel. Alors des fois elles sont plus éclectiques que d'autres, des fois elles sont plus longues que d'autres, et des fois il y a juste 3 trucs dessus, mais c'est pas grave, je les fais quand même. Une troisième astuce qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup servi, c'est d'inclure en fait dans les choses que je devais faire dans ma journée des choses qui étaient vraiment, vraiment faciles à réaliser. Comme par exemple, oui, lancer une machine, ranger mon dressing, vider le lave-vaisselle. Ça peut paraître bête parce que clairement, c'est des tâches du quotidien et c'est anodin pour beaucoup. Mais moi, j'ai remarqué que quand je faisais des petites tâches comme ça dans mon quotidien, ça me donnait en fait envie d'en faire d'autres et d'être beaucoup plus active pendant ma journée. C'est pour ça que, y a aussi quelque chose que je pense que vous avez souvent dû voir dans des livres de développement personnel ou dans des vidéos. Les gens qui vous disent de faire votre lit, le premier truc que vous faites le matin en vous levant, c'est de faire votre lit. Pourquoi? Parce que ça envoie un message positif à votre cerveau de se dire, ok, en fait, tu t'es levé et la première chose que tu as fait, c'est que tu as fait ton lit. C'est une première tâche que tu as fait pendant ta journée. Ça y est, c'est fait. Tu l'as fait. Tu peux en faire bien d'autres. C'est plus positif d'envoyer ce message à votre cerveau de « j'ai pris soin de mon intérieur, j'ai fait mon lit ce matin » que de partir de votre maison ou de votre chambre en laissant un lit en bordel toute la journée et en allant scroller sur TikTok pendant 4 heures. En fait, c'est vraiment une perception totalement différente et la première tâche que vous faites le matin va souvent conditionner tout le reste de votre journée. Moi, je l'ai expérimenté. Il y a des matins où, quand je me lève, le premier truc que je fais, c'est que je sais que je ne suis pas en super forme mentale. Je le sens de toute façon quand je me réveille. Il y a des jours, on le sait, hein, les jours tu te réveilles, t'es de bonne humeur. Il y a des jours tu te réveilles, ça va pas. Bah moi, les jours où ça va pas, j'ai vraiment fortement tendance à rester dans ce côté ça va pas. Et donc, je vais aller scroller sur TikTok pendant 2 heures. Je vous jure, je suis capable de le faire, premier truc de la journée. Et là, vraiment, je ghoste toutes les personnes qui m'envoient des messages pour le boulot. Je fais comme si ça n'existait pas. Et au bout de 2 heures, je me lève et là, je passe une super mauvaise journée parce que, évidemment, je ne peux pas fuir mes tâches professionnelles et à un moment donné, je dois les faire. Sauf que, comme c'est pas la première chose que j'ai commencé à faire le matin ou que j'ai pas commencé ma journée par quelque chose de positif qui envoyait un message à mon cerveau en mode c'est bien, meuf, tu l'as fait. Bah là, en fait, tout est difficile. Toutes les tâches que je dois faire dans ma journée, c'est la plaie, j'ai pas envie. Et c'est à ce moment-là que je vais commencer à procrastiner à mort parce que justement, je suis de base dans un mauvais mood. Alors que si, quand je me lève le matin, je pose mon téléphone, je le regarde pas les 15 premières minutes où je me réveille, je me lève, je vais faire ma skincare, je fais mon lit, je vais marcher, je vais boire mon café. Bah là, ma journée, elle est complètement différente et elle ne se passe pas du tout de la même manière que si j'avais scrollé sur TikTok pendant 2 heures. Donc il y a aussi ce côté, ça peut être aussi une autre astuce, une quatrième astuce, de se conditionner dès le matin quand on se lève à passer une journée efficace, efficiente, plutôt que d'être dans une sorte de pathos et dans une sorte de mollacité qui va pas vous donner envie en fait de faire des choses pendant la journée. Une cinquième astuce qui, sur moi, fonctionne excessivement bien, c'est la récompense. Moi, vraiment, je fonctionne comme ça, je fonctionne à la carotte, à la carotte que je m'auto-tends, hein, clairement, je vous le dis. Donc, en gros, qu'est-ce que je fais? Quand j'ai une tâche à faire, que j'ai pas envie de la faire, mais que je dois la faire, je me dis, en fait, je suis souvent tentée par d'autres trucs. Genre, je suis tentée par allumer mon tel, aller scroller sur TikTok. Je suis tentée par allumer mon ordi, jouer aux jeux vidéo. D'ailleurs, je vous renvoie à mon dernier épisode là-dessus. Je suis tentée par faire un autre truc, mais que je dois pas faire, mais en mode active. Ah oui, on la connaît, la procrastination active. Je sais pas, tu dois aller ramener ton colis à la poste, comme moi. Eh ben, à la place, je vais aller ranger la cuisine. On s'en bat les couilles, je suis pas censée le faire, mais je dois aller rendre ce putain de colis. Mais non, à la place, je vais aller ranger ma cuisine. La fameuse procrastination active. Ah, celle-là, c'est vraiment la pire. C'est comme mon mec qui décide de ranger toute la cuisine et de la trier de fond en comble alors qu'il avait un autre truc à faire hyper important pour le boulot. Ça j'adore, ça j'adore. Ça me fait trop rire. Le cerveau, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment n'importe quoi. Bref, pour revenir à mon système de récompense, si je sais que j'ai envie de faire ces choses-là plutôt que d'aller rendre mon colis, eh ben je vais me le dire, tu n'auras le droit de le faire. Je ne t'autoriserai à le faire que lorsque tu auras accompli ta tâche. Donc je ne m'autoriserai à aller sur TikTok que lorsque j'aurai fait ma tâche. Et je peux vous dire qu'en fait, alors il y a des gens chez qui ça marche pas du tout parce que vous passez outre cette autorisation que vous vous donnez à vous-même. Mais moi, je vous jure que le fait de m'empêcher de faire un truc sous la contrainte de moi-même, eh ben ça me motive. Je suis en mode, ah ouais Marie, non, allez, vas-y, vas-y, va le rendre ton colis, tu kifferas après. Surtout qu'en plus, tu kiffes d'autant plus après. Pourquoi? Parce que t'as l'esprit libre. C'est un peu, ok, je vais vous faire une comparaison, je suis pas sûre que vous la captiez, mais je vais vous la dire. Quand vous avez votre assiette devant vous, est-ce que vous commencez par manger les trucs que vous préférez ou les trucs que vous aimez le moins? Eh ben moi, je commence toujours par les trucs que j'aime le moins. Pourquoi? Parce que comme ça, je termine toujours sur une note positive. Je finis toujours mon repas par le truc que je préfère le plus. Eh ben, je le vois un petit peu comme ça, moi, la procrastination avec ces tâches que je m'impose. D'abord, je commence par les trucs que j'ai le moins envie de faire pour arriver au point culminant du bonheur ultime en finissant par un truc que j'ai super envie de faire. Donc, je commence par faire toutes les tâches de merde pour terminer sur la fin de ma journée où je sais que j'ai bien bossé pendant la journée, j'ai fait toutes les tâches que j'avais pas envie de faire et là, je vais jouer aux jeux vidéo pendant 2 heures. C'est ma petite récompense, c'est ma carotte, c'est mon petit bâton. Et ça me pousse en fait justement à mettre en place des actions quotidiennes pour m'auto-récompenser à la fin de la journée. Et je peux vous dire que la récompense après une tâche accomplie n'a pas la même saveur que d'allumer les jeux vidéo alors que j'ai plein de trucs à faire sur le côté. Pourquoi ? Parce que quand je vais jouer, je vais penser à tout ce que je dois encore faire. Et je prends moins de plaisir en fait. C'est genre limite un cache-misère. Je le fais pour pas penser à tout ce que je dois faire et je le fais pas en mode putain, je suis trop contente et je passe un bon moment. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? C'est mon père qui m'a appris ça quand j'étais petite. Il me disait toujours... Tu pourras jouer aux jeux vidéo quand t'auras fait tes devoirs. Et en fait, en soi, c'est vrai. D'abord, tu fais un truc chiant, puis tu fais un truc cool, parce que comme ça, tu profites. Et ça, c'est un truc que j'applique dans ma vie, et c'est ce qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé avec la procrastination. Maintenant, je vais vous parler d'autres techniques qui existent, mais qui n'ont pas spécialement marché sur moi, mais je vous en donne quelques-unes comme ça, à la volée, et peut-être qu'en piochant dedans, ça va vous aider. Il y a évidemment le fait de travailler sur son stress, hein, le fait d'être beaucoup plus serein dans sa vie, de réussir à avoir une meilleure gestion du stress peut vous aider à accomplir plus de tâches. Il y a aussi une technique qui s'appelle la technique des 5 minutes, alors là après les 5 secondes on passe aux 5 minutes, c'est quand en fait ton cerveau est tellement submergé par plein de tâches que en fait tu te dis ok donc là c'est trop, j'en ai trop, j'ai trop de tâches donc je ne vais accorder que 5 minutes par jour à des petites tâches que je dois faire vraiment et que je laisse de côté. Donc ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes, ça peut être un quart d'heure. Ou vous savez, je pense que vous avez déjà vu ce système de Pomodoro, je crois que ça s'appelle comme ça. Où en gros, vous vous accordez une heure pendant laquelle vous êtes totalement focus sur une tâche que vous devez faire. Et en fait, c'est un moment où vous vous mettez un minuteur que vous pouvez voir. Et pendant ce minuteur-là, vous ne faites rien d'autre que les tâches que vous devez faire. Alors moi, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas, cette technique-là, parce que je trouve ça trop stressant, en fait. Et mon cerveau a trop tendance à partir dans tous les sens. Et rester concentré pendant plus d'une demi-heure, pour moi, ça me demande un effort colossal, même pendant plus de 15 minutes. C'est pour ça que j'ai souvent des moments où mon cerveau décroche très très vite, où j'ai des moments de blanc total, où genre je bug, parce que mon cerveau n'arrive pas du tout à rester concentré plus de 15-20 minutes. C'est pour ça qu'en cours, c'était hyper difficile pour moi de rester concentré pendant 2 heures d'affilée. J'y arrivais vraiment pas. Et vraiment, mon cerveau partait dans tous les sens. Ça, c'est chiant. Et je dirais qu'en plus, avec l'arrivée des réseaux sociaux maintenant et les petites vidéos courtes qu'on voit très rapidement, notre cerveau, il a encore moins d'attention qu'avant. Donc je trouve ça très très difficile, la technique du Pomodoro. Et vraiment, je... Donc je viens de vérifier, et le Pomodoro, c'est vraiment ce que je disais, sauf que c'est des plages horaires de 25 minutes, parce qu'en effet, on peut pas rester concentré trop longtemps non plus, notre cerveau décroche de toute façon, c'est normal. Il y a cette technique-là, donc, de planifier par exemple une heure entrecoupée du coup de plusieurs plages de 25 minutes pour réussir à accomplir des tâches et pour se focaliser sur des tâches. Moi, je sais que ça fonctionne pas sur moi, mais je pense qu'il y a des gens sur qui ça fonctionne très très bien, à vous de trouver la technique qui marche le mieux pour vous. Et quelque chose que moi je n'arrive pas à faire, mais je sais que ça marche aussi bien sur pas mal de personnes, c'est de réussir à se concentrer sur l'instant présent. C'est-à-dire d'arrêter de réfléchir à ce qui va se passer dans 2 heures, 3 jours, 1 mois, ou même dans l'autre sens en fait de ce qui s'est passé il y a une semaine, 1 mois, 1 an, mais vraiment de vivre dans l'instant présent et de faire les choses en pleine conscience. Donc de ne pas commencer à se dire oui, demain, après-demain, voilà. Non, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est tout de suite, je le fais. Moi, ça va vraiment, c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire. Vivre dans le moment présent, c'est très dur pour moi. Je fais pas de méditation, je suis pas très adepte de ça. J'ai essayé, ça n'a pas fonctionné, ça m'angoisse en fait, pour tout vous dire. Je ne sais pas encore pourquoi, peut-être qu'un jour je découvrirai pourquoi. Mais c'est pas quelque chose qui fonctionne la pleine conscience chez moi. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens chez qui ça fonctionne, donc n'hésitez pas à tester cette technique-là, juste de vous dire ok, mais en fait j'essaye de me concentrer sur l'instant présent et non pas sur tout ce qu'il y a autour. Et ça peut aider beaucoup de personnes à réussir à accomplir des tâches que l'on doit faire. Des techniques, je suis sûre qu'il y en a plein d'autres que celles que je vous ai évoquées dans cet épisode. D'ailleurs, je serais hyper, hyper heureuse d'avoir vos retours et vos petits conseils, vos astuces pour éviter de procrastiner. Je vous laisserai commenter tout ça dans les commentaires Spotify, si vous nous écoutez sur Spotify, évidemment. Je trouve que c'est un sujet qui est vraiment passionnant parce que ça relève à quel point le cerveau peut être lui-même assez farceur et assez... en fait, comme si le cerveau était une entité à part entière qui nous jouait beaucoup de tours. Et je trouve que c'est vraiment trop rigolo de penser comme ça, de se dire « Tain, mais en fait, il y a vraiment juste mon cerveau qui me joue des tours au quotidien et qui m'empêche d'agir sans aucune raison, sans savoir vraiment pourquoi. » Et c'est vraiment un sujet qui m'a toujours, toujours intéressé, la procrastination. D'ailleurs, dès lors que j'ai entendu ce mot, j'ai réalisé que c'était un mot qui était fait pour moi. Et ce qui est fou, c'est de se dire qu'il y a vraiment des gens chez qui ça n'arrive pas. Il y a des gens qui ne procrastinent pas, qui ne savent pas ce que c'est et qui sont des gens qui agissent dans l'instant présent. Et je trouve ça fascinant. J'aimerais vraiment être une personne comme ça. Je pense que j'ai tout dit sur la procrastination, en tout cas me concernant. J'espère vraiment que c'est un épisode qui aura pu vous aider, comme d'habitude. J'ai l'impression que je termine toujours mes épisodes comme ça, mais c'est la vérité. J'espère que ça vous aura donné quelques petites clés de connaissances par rapport à ce sujet, que peut-être vous aurez découvert pourquoi est-ce que vous procrastinez, quelles sont les techniques pour améliorer cette situation, pour s'en sortir, ou même peut-être même pour arrêter. Si vous avez des vraies techniques encore mieux que celle-ci, je vous les pique, je veux les savoir. Bref, je vais m'arrêter là pour cette semaine. J'ai l'impression que c'était un très long épisode, mais c'était très intéressant. Je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et on se dit à la semaine prochaine, mardi prochain, 6h06, pour un nouvel épisode de mon podcast Heure Miroir. Ciao.